Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre étude des décrets du Concile de Trente, il nous reste à voir l'enseignement du Concile sur le sacrement de l'ordre. C'est une question de grande importance parce que, comme l'explique le catéchisme du Concile de Trente, je cite, « Tous les autres sacrements dépendent du sacrement de l'ordre, puisque sans lui, les uns ne pourraient jamais exister ni être administrés, la Sainte Messe, l'extrême onction, la confession, et que les autres demeureraient privés de toutes les cérémonies solennelles ainsi que d'un certain culte et de certains rites religieux, par exemple le baptême ou le mariage. » Et on voit bien aujourd'hui l'importance du sacerdoce. Vous savez que l'œuvre de Mgr Lefebvre avait pour but précisément de faire des séminaires pour former des prêtres pour que la messe catholique continue d'exister dans l'univers chrétien. Le sacrement de l'ordre, c'est celui qui est le plus attaqué après la Sainte Eucharistie, après le Saint Sacrifice de la messe, par les protestants. C'est dire là aussi son importance. C'est pourquoi le Concile de Trente a consacré 4 chapitres à cette question, des chapitres qui répondent tour à tour aux principales erreurs des protestants et que viennent sanctionner plusieurs canons. Ces chapitres sont très intéressants à étudier parce qu'ils sont d'une très grande actualité. Les erreurs du néo-modernisme actuel sur le sacerdoce sont en effet dans l'exact prolongement des erreurs protestantes. C'est du néo-protestantisme. Et c'est pour ça que c'est très utile d'étudier ces choses. Alors voyons cela. Nous pouvons ramener à 3 les erreurs protestantes, pour simplifier. C'est d'abord une erreur sur la nature du sacerdoce. Pour les protestants, le sacerdoce n'est pas un sacrement. C'est ensuite une erreur sur le nombre des saints ordres. Vous savez qu'il existe 7 étapes du sacerdoce, depuis l'ordre de portier jusqu'au sacerdoce lui-même. 4 ordres mineurs, 3 ordres majeurs. L'Église a toujours enseigné cela. Eh bien, c'est refusé par le protestantisme. Et puis enfin, et par voie de conséquence, l'erreur protestante est une erreur sur le caractère hiérarchique de l'Église. Toutes ces erreurs sur le sacerdoce ont de très grandes conséquences sur la notion même d'Église, sur ce qu'on appelle l'ecclésiologie. Et là encore, nous allons retrouver Vatican II. Tout d'abord, pour Luther, Calvin et leurs disciples, l'ordre donc n'est pas un sacrement. Il n'a pas été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fiction humaine inventée par les catholiques et donc il n'existe pas de sacerdoce visible, extérieur, conféré par une cérémonie d'ordination que seul un évêque peut accomplir. Tout ça, les protestants le nient. N'étant pas un sacrement, le sacerdoce n'est pas définitif. Il peut être révoqué. Et celui qui en bénéficie, le sujet du sacerdoce, le prêtre, n'est transformé en rien. Il ne reçoit pas de caractère sacerdotal, ce caractère indélébile par lequel le prêtre est définitivement distingué des simples fidèles, des simples baptisés. Et le prêtre ne reçoit pas non plus le pouvoir de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe, ni de faire et d'administrer les sacrements, notamment d'absoudre les péchés. Tout ça n'existe plus. Le sacerdoce, donc au fond, pour les protestants, n'est qu'une fonction humaine, ayant pour unique objet l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministre, c'est le nom que les protestants ont donné à leur ministre, au pasteur, le ministre est élu, pris parmi les fidèles et avec leur consentement. Il ne peut être désigné sans le consentement des fidèles. Ce sont les fidèles qui font le prêtre, ce n'est pas Dieu. Et il est élu, il est choisi, établi uniquement pour prêcher la parole de Dieu. En d'autres termes, il est le représentant ou le délégué du peuple de Dieu. C'est la définition que pratiquement on peut donner du ministre protestant. Contre cette erreur, le Concile de Trente enseigne que le sacerdoce est un vrai sacrement et que ce sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ lors de la dernière scène, lorsque Jésus dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi », cette phrase que le prêtre répète à chaque messe après avoir consacré le précieux sang. Donc ce sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ est directement lié au Saint-Sacrifice de la messe. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur l'a institué au moment où lui-même a célébré la première messe lors de la scène du Jeudi Saint. Voici les paroles du Concile, c'est le chapitre premier, enfin un petit extrait de ce chapitre premier. Le sacrifice et le sacerdoce sont, par la disposition de Dieu, en un rapport si étroit que l'un et l'autre ont existé sous toute loi. Puisque dans le Nouveau Testament, l'Église catholique a reçu, de l'institution même de notre Seigneur, le saint sacrifice visible de l'Eucharistie, il faut aussi confesser qu'en elle existe un nouveau sacerdoce visible et extérieur. Que ce sacerdoce ait été institué par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qu'aux apôtres et à leurs successeurs ait été conféré dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d'offrir, de dispenser le corps et le sang du Christ, et aussi celui de remettre et de retenir les péchés, les saintes Écritures le montrent et la tradition de l'Église catholique l'a toujours enseigné. Fin de citation. Donc l'enseignement, la doctrine est très claire. Comme le disent ces paroles, d'une manière expresse, le sacerdoce est directement ordonné au saint sacrifice de la messe. Le prêtre est d'abord et avant tout l'homme de la messe. Et c'est parce qu'il a reçu ce pouvoir sur le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de consacrer la sainte hostie et le vin pour en faire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en vertu donc de ce pouvoir que par voie de conséquence, il a aussi un pouvoir sur le corps mystique, c'est-à-dire sur les fidèles. Toute la doctrine du sacerdoce découle de cette vérité première. Et dans le troisième chapitre, le Concile va reprendre et expliquer cette doctrine en insistant sur le fait que, comme tout sacrement, l'ordre confère à celui qui le reçoit une grâce intérieure sanctifiante, une augmentation de la grâce sanctifiante, une grâce sacramentelle, et aussi un caractère sacramentel, c'est-à-dire ce signe indélébile qui marque l'âme. Vous savez qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère, l'ordre, le baptême et la confirmation. Un caractère sacramentel, donc permanent, fixe, durable, donné par le Saint-Esprit. Et donc, il est impossible de réduire le sacerdoce à un simple ministère de la parole. Et celui qui le reçoit ne peut pas redevenir un simple laïc. Alors, évidemment, le prêtre a aussi la charge de prêcher. Mais cette charge de prêcher découle de tout le reste. Il y aurait beaucoup de rapprochements à faire entre ces erreurs protestantes sur le sacerdoce, toutes ces erreurs que nous venons de signaler, et la conception actuelle de l'Église conciliaire. Vous le savez, mais il est bon de le redire, cette idée que le prêtre n'est pas d'abord l'homme du sacrifice de la messe, mais qu'il est un homme comme les autres, un simple délégué, un président de l'Assemblée des fidèles, voué uniquement au témoignage, comme on dit, ou au ministère de la parole. Aujourd'hui, c'est une idée qui est répandue partout. Rappelez-vous le fameux article 7 de l'Institutio Generalis de la Nouvelle Messe, donc de l'introduction par laquelle la Nouvelle Messe était présentée. Ce texte a été signé par Paul VI, c'est le texte officiel. Même si cet article a été légèrement modifié ensuite, la doctrine, elle est restée la même. Alors je vous le cite, vous le connaissez par cœur sans doute ce texte, mais il est bon de souvent reméditer ces choses-là. La messe est ainsi définie. La scène du Seigneur ou messe est la synaxe sacrée, c'est-à-dire le rassemblement, ou le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre. Le prêtre est un simple président. Pour célébrer le mémorial du Seigneur, il n'y a plus de sacrifice, c'est un simple mémorial. Et c'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence qui découle de cette fausse doctrine n'est plus qu'une présence spirituelle. La présence réelle du corps, du sang, de l'âme, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus clairement exprimée. La deuxième erreur des protestants porte sur le nombre des ordres sacrés. Vous savez donc que l'ordre est un sacrement qui est donné en sept étapes. Et cette répartition du sacrement de l'ordre en sept degrés est aussi ancienne que l'Église elle-même. Le Concile rappelle en effet, le Concile de Trente, que les Saintes Écritures font ouvertement mention des prêtres et des diacres, et que dès le commencement de l'Église, les noms de sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs et portiers, donc tous les ordres appelés mineurs, et les fonctions propres à chacun d'eux, ont été en usage et que leur diversité était déjà reconnue. C'est aussi ancien que l'Église, ces choses-là. Et il a fallu attendre Vatican II et les réformes post-conciliaires pour que ce soit supprimé. Le motif de cette distinction des sept ordres sacrés, vous voyez qu'il y a toute une hiérarchie, ce sont comme des marches que le candidat au sacerdoce monte tour à tour jusqu'au moment où il sera ordonné prêtre. Donc cette distinction des sept ordres sacrés a un motif très profond, et ce motif est clairement indiqué par le Concile de Trente. Il s'agit de rehausser l'éminente dignité du sacerdoce par une série de degrés qui lui soient subordonnés et destinés à son service. Depuis la tonsure qui fait entrer dans la cléricature et l'ordre de portier, qui est le premier des ordres mineurs, le candidat s'élève par degrés jusqu'au sacerdoce et il se rapproche ainsi de plus en plus de l'autel de la messe, qui est le but premier du sacerdoce. Vous voyez comme ces choses sont très belles au fond. Et cette hiérarchie si traditionnelle a été rejetée par les protestants et elle a été également abolie par la réforme conciliaire actuelle, par souci œcuménique pour plaire aux protestants. Les réformateurs de Vatican II ont supprimé tous les ordres mineurs et le sous-diaconat, sous le prétexte que ces ordres ne sont pas mentionnés explicitement dans la Sainte Écriture. Mais c'est une imposture. Il y a d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Sainte Écriture et qui sont pourtant tout à fait vraies. Par exemple, la liste et le nombre des livres qui appartiennent à la Sainte Écriture, il est évident que ce n'est pas la Sainte Écriture qui nous le donne, sinon ça serait un cercle vicieux. Tout cela nous vient de la tradition apostolique, et la tradition apostolique a autant de valeur et même plus que la Sainte Écriture. L'Écriture appartient à la tradition, ce n'est pas l'inverse. Cette suppression des ordres dits mineurs et du sous-diaconat ajoutés aux autres réformes est vraiment lamentable et extrêmement préjudiciable au sacerdoce. Elle fait perdre le sens du sacerdoce et de sa dignité et détruit surtout le rapport étroit qui existe entre le sacrement de l'ordre et l'autel. Cette montée à l'autel n'existe plus, elle n'est plus signifiée. La collation de l'ordre n'est plus une montée graduelle et hiérarchisée vers l'autel en vue de l'offrande du sacrifice de la messe. Ça devient un simple service ecclésial uniquement tourné vers les fidèles. C'est du protestantisme. Et puis enfin, la troisième erreur des protestants sur le sacerdoce, qui ici encore est passée en grande partie dans l'Église conciliaire, c'est la destruction du caractère hiérarchique de l'Église. Et cela aussi est très important. Comme le sacerdoce, pour les protestants, n'est plus un sacrement et n'imprime aucun caractère, en conséquence, le prêtre ne reçoit qu'un pouvoir temporaire et donc il peut redevenir laïque. Dès qu'il n'exerce plus le ministère de la parole de Dieu, il rentre dans le rang. En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y a pas de distinction essentielle entre le prêtre et le reste des fidèles. Tous les chrétiens, par leur baptême, sont prêtres et ont un égal pouvoir spirituel. L'évêque lui-même n'a rien de plus que le prêtre, sinon une simple primauté d'honneur et une fonction d'administration requise par l'organisation sociale de l'Église. Mais vous savez que les évêques protestants ne sont pas évêques, ils ne sont pas prêtres, ce sont de simples laïcs. Quand les papes conciliaires vont voir le pseudo-archevêque de Cantorbéry et bénissent la foule avec lui, ce n'est pas une bénédiction, c'est rien du tout. L'archevêque de Cantorbéry, c'est un simple monsieur, habillé d'une soutane violette, mais il n'empêche, c'est un laïc. Cette thèse, c'est la thèse du sacerdoce des fidèles. Et cette thèse est gravissime. Aujourd'hui, elle est pratiquement universellement prêchée partout. Alors, en conséquence, pour l'ordination des prêtres et des autres ministres, enfin, il faudrait dire plutôt pour leur élection, leur mise en place, puisqu'il n'y a plus d'ordination pour les protestants, il faut donc nécessairement le consentement du peuple chrétien et même de l'autorité séculière, puisque c'est pour le service du peuple que le ministre est établi et qu'il est délégué. Vous voyez que c'est une conception démocratique de l'Église et de ses membres. Et cette conception a été vivement condamnée par le Concile de Trente. Elle est plus ou moins celle, encore une fois, qui domine aujourd'hui et qui est enseignée par Vatican II, spécialement dans la constitution Lumen Gentium sur l'Église et dans le nouveau code de droit canonique. À ce sujet, je me permets de vous recommander un article qui est paru dans le Sel de la Terre numéro 93, qui s'intitule « Petit catéchisme du Concile Vatican II ». Et dans cet article, qui est en tiré à part d'ailleurs, que vous trouvez sur la table de presse, il y a donc un passage sur Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église, la constitution de Vatican II, et voici le commentaire qui est donné. Jusqu'à Vatican II, l'Église était considérée comme essentiellement hiérarchique, avec une distinction de droit divin entre les clercs, seuls détenteurs du triple pouvoir d'ordre, de juridiction et de magistère, et les laïcs. Et cette doctrine est reprise dans le Code de droit canonique de 1917. Par l'effet de l'institution divine, dit le Code, les clercs dans l'Église sont distincts des laïcs. Or, Lumen Gentium ne fait plus de différence entre les clercs et les laïcs. Et même, Lumen Gentium commence par traiter de ce qu'on appelle désormais le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il en est 40 fois question dans Lumen Gentium. Le terme est 40 fois cité et on le retrouve dans le nouveau Code de droit canonique. Alors Lumen Gentium traite d'abord du peuple de Dieu en général, avant de parler de la hiérarchie, comme si la hiérarchie était issue du peuple de Dieu. Ouais, la hiérarchie, les prêtres, les évêques, le pape, ne sont finalement que des délégués, des représentants du peuple de Dieu. Mais c'est le peuple de Dieu que le Saint-Esprit inspire directement. Et puis ensuite, Lumen Gentium traite du sacerdoce commun des fidèles, avant de parler du sacerdoce ministériel, comme s'il s'agissait de deux formes différentes d'un même sacerdoce. Mais c'est oublier que c'est la hiérarchie de l'Église qui forme le peuple fidèle. S'il y a peuple, c'est parce que d'abord il y a une hiérarchie. Et c'est oublier aussi que le seul sacerdoce ministériel est le sacerdoce ministériel est un sacerdoce au sens propre du mot. Quand on parle du sacerdoce des fidèles, alors c'est vrai que saint Pierre dit dans son épître, la première épître, que le peuple chrétien est un sacerdoce, est un peuple sacerdotal. Mais c'est une métaphore, c'est une image. C'est pas au sens propre qu'il dit les choses. C'est simplement pour montrer que par le baptême, tout fidèle participe d'une certaine manière au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce sens qu'il a la capacité de recevoir les sacrements, mais pas de les faire, ni de les donner. Sacerdoce vient de sacra dans, celui qui donne les choses sacrées. Et seuls peuvent le faire ceux qui ont reçu le pouvoir d'ordre. Les laïcs baptisés n'ont que le pouvoir de recevoir ces choses sacrées. Et vous voyez que sans le dire ouvertement, on a ouvert la porte à l'invasion des laïcs, hommes et femmes, dans tous les postes de gouvernement de l'Église. Alors déjà dans les équipes liturgiques paroissiales, mais jusqu'au dicastère romain. Aujourd'hui, dans les grandes universités romaines, des femmes enseignent et le public est mixte. Tout ceci, pour conclure, doit nous faire prendre conscience de l'importance et de la grandeur du sacerdoce catholique. Il ne s'ensuit pas, évidemment, que les prêtres doivent s'enorgueillir d'être revêtus d'un tel pouvoir et d'un tel trésor. Bien au contraire, le Concile de Trente, d'ailleurs, insiste sur le fait que la grâce du sacerdoce est une grâce gratuite, que personne ne peut s'octroyer de lui-même cet honneur et que le sacerdoce ne doit rien, absolument rien, au mérite de l'homme. Ceux qui voudraient se prévaloir de cette grâce pour des raisons indignes ou purement humaines pécheraient gravement et seraient grandement méprisables. Il y a même tout un long décret de réformation qui impose aux prêtres une véritable sainteté pour que le sacerdoce ne soit pas vilipendé. Mais tout cela nous montre en même temps combien il faut, dans nos familles chrétiennes, honorer cet état et prier pour que le bon Dieu nous envoie de nombreux et de saints prêtres. C'est vital. L'Église ne peut pas vivre sans ça. Nos âmes ne peuvent avoir la grâce s'il n'y a pas de sacerdoce. La moisson est abondante, dit notre Seigneur dans l'Évangile, et les ouvriers sont peu nombreux. Monseigneur Lefebvre aimait à citer l'oracle du prophète Malachie. C'est le dernier des petits prophètes. Et ce prophète condamne les mauvais prêtres tout en annonçant la messe. Il y a une prophétie qui concerne la messe dans le prophète Malachie. Mais en même temps, tous les mauvais prêtres, tous ceux qui n'honorent pas Dieu, sont vivement, fortement corrigés, repris. Alors, je vous lis quelques mots de cet oracle, de cette prophétie. Vous verrez comme cet oracle est tout à fait actuel et comme il nous encourage à être vraiment fidèles, que les prêtres soient vraiment fidèles à leur vocation. Dieu dit, « Si je suis père, où sont les honneurs qui me reviennent ? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ?» Vous dit le Seigneur des armées, « À vous, prêtres, qui n'avez que mépris pour mon nom, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Monseigneur Lefebvre disait que tout ça, on peut l'appliquer à la nouvelle messe. « Je ne prends aucun plaisir en vous et aucune offrande de vos mains ne m'est agréable. » Car du levant au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on offre à mon nom des sacrifices et une oblation pure. Voilà la Sainte Messe. Mais vous, dit Dieu, vous ne faites que profaner mon nom. Eh bien, prions la Sainte Vierge pour que ce ne soit pas notre cas, et prions-la surtout pour qu'elle envoie à l'Église de nombreux et de très saints prêtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.